Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine Devels. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Annick Liffrand dans le studio. Bonjour Annick.
Bonjour Marie-Christine.
Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de la fille de Jephté et d'une légende qui s'appelle la légende du pont du diable.
Alors, la fille de Jephté, c'est un récit qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, dont je dirai un petit mot. C'est une histoire qui n'est pas très très connue. Comment est-ce que j'ai connu cette histoire ? Tous les dimanches matin, j'écoute le culte sur France Culture à 8h30. Et une fois, justement, c'était un culte sur la fille de Jephté. Et j'étais très impressionnée parce que ce moment de culte qui est recueilli a commencé par une histoire qui est la légende du pont du diable. Et je vous avoue que quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire vient faire dans un culte ? Mais j'ai trouvé que c'était fabuleux d'avoir commencé ce culte avec cette légende. Alors nous allons faire la même expérience. Marie-Christine, lis-nous cette légende du pont du diable.
Entre les deux flancs escarpés d'un ravin bouillonnait une rivière. Les habitants du pays se désolaient de l'obstacle qui les obligeait à faire de tels détours. Aussi, on fit venir l'architecte le plus renommé du pays. Celui-ci passa des jours et des nuits à étudier le problème. Hélas, il n'entrevoyait aucune solution. Un soir, alors qu'une fois de plus il déchirait un croquis, le diable lui apparut. « Moi, je saurais bien résoudre le problème qui te tourmente. Et même, c'est en une seule nuit que je bâtirai ton pont. »« Vraiment ? Et que demanderais-tu en échange d'un tel prodige ?»« Oh, pas grand-chose ! » « Seulement l'âme du premier qui passera le pont. »« Eh bien, soit, marché conclu. Si demain, au chant du coq, le pont est terminé, l'âme du premier qui le franchira sera à toi. » Toute la nuit, le grondement de la rivière fut couvert par un vacarme épouvantable, mais nul n'osa s'approcher pour voir le diable à l'œuvre. Pourtant, au premier chant du coq, ils étaient nombreux sur le chemin, à contempler le pont qui enjambait la rivière. Le diable, lui, attendait, un sourire avide aux lèvres. L'architecte s'approcha du pont, admiratif. Et d'un seul coup, il sortit de sous son manteau un lapin, qu'il jeta sur le pont. Alors que l'animal fuyait vers l'autre côté, l'architecte s'écria « Messire le diable, voici l'âme qui vous est due !» De rage, le diable se jeta dans les tourbillons de la rivière.
Donc voilà la légende du pont du diable. Elle est racontée dans de nombreux endroits d'Europe et elle ne sert pas seulement à expliquer l'origine d'un pont. C'est une histoire qu'on trouve rassurante, c'est-à-dire que finalement le diable n'est pas si dangereux qu'on peut l'imaginer. Et je dirais même en jouant un peu sur les mots, il est plus facile de se montrer plus malin que le malin. Donc cette histoire nous veut nous dire qu'avec un peu de roublardise, on peut se sortir de mauvais pas. On retrouve aussi cette légende dans une pièce de théâtre de Corneille ou Racine, je me souviens plus, sur Iphigénie. Mais on la retrouve aussi dans la Bible. Ça veut dire que cette légende a des racines très très anciennes. Et dans la Bible, c'est l'histoire de Jephté et de sa fille qui se trouve dans le livre des Juges, qui est un récit beaucoup plus grave et beaucoup moins positif, qui nous parle de la même histoire. Donc nous allons lire dans le livre des Juges, au chapitre 11, les versets 29 à 40.
Alors le souffle du Seigneur fut sur Jephté. Celui-ci traversa le Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad. De Mitzpé de Galaad, il passa chez les Ammonites. Jephté fit un vœu au Seigneur. Il dit, « Si vraiment tu me livres les Ammonites, Quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. » Jephté passa chez les Ammonites pour les combattre, et le Seigneur les lui livra. Il leur infligea une très grande défaite, depuis Aroer jusque vers Minit, 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Comme Jephté revenait chez lui au Mitzpah, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu m'accables. Toi aussi, tu attires le malheur sur moi. Je me suis engagée devant le Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. » Elle lui dit « Père, tu t'es engagé devant le Seigneur. Agis envers moi selon l'engagement que tu as pris, maintenant que le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Elle dit encore à son père « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai, j'irai sur les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes amis. » Il répondit « Va » et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla sur les montagnes avec ses amis pour pleurer sa virginité. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il s'acquitta sur elle du vœu qu'il avait fait. Elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Dès lors, ce fut une prescription en Israël. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galaadite, 4 jours par an.
Donc ce sont 2 histoires épouvantables, ou du moins la première se termine bien, mais la deuxième se termine beaucoup moins bien. On va faire une petite pause avant d'en donner des explications. Nous allons commenter ces 2 histoires. Si j'ai voulu vous raconter l'histoire du pont du diable, c'est pour vous permettre de mieux apprécier celle de Jephté et surtout de mieux rendre hommage à cette pauvre fille dont le père fut beaucoup moins malin que l'architecte. Mais cette histoire de la fille de Jephté, nous aurions aimé qu'elle n'existât pas. Elle est cynique, elle est diabolique. Et pourtant, elle fait partie de la Bible. Elle est donc incontournable. Que veut-elle nous dire? En fait, elle nous parle de tous les engagements que nous prenons à la légère et que finalement nous regrettons. Elle nous parle aussi de notre relation à Dieu, c'est-à-dire quand nous avons un projet qui nous tient à cœur, comment nous le disons à Dieu? Et aussi, comment est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de notre côté pour que ce projet se réalise? Alors finalement, quand j'ai travaillé ce texte, je lui donnerai comme titre ou comme morale cette phrase « Tes projets confiés à Dieu ». Tes projets confiés à Dieu. Alors on va expliquer pourquoi, comment est-ce que je suis arrivée à cette conclusion.
Donc cette histoire de Jephté, c'est d'abord l'histoire d'un sacrifice humain, à l'époque où ils étaient interdits. Les sacrifices étaient autorisés avec des animaux, mais pas avec des hommes. C'était un geste qui exprimait la reconnaissance envers Dieu pour une victoire, pour une naissance.
Oui, c'est-à-dire le sacrifice, en fait, avait lieu après l'événement qui motivait le sacrifice. Et ce qui est étonnant ici, dans cette histoire, c'est que la fille de Jephté, elle a accepté elle-même d'être donnée en sacrifice. Elle n'a pas protesté. C'est comme si elle s'était transformée en un objet, en un animal, en un objet. Et d'ailleurs, on ne connaît même pas son nom, même si elle est unique. Cette fille de Jephté, elle a obéi à son père, un petit peu comme une sainte, comme une vierge. Et elle acceptait de mourir comme pour lui montrer finalement l'absurdité de sa promesse. Comme pour que son père aille jusqu'au bout de ses responsabilités. Elle ne proteste même pas. Elle me fait penser à Isaac. Vous savez, Isaac qui s'est laissé attacher par Abraham sur le bûcher sans rien dire. Isaac avait dit oui. Il a dit oui à Dieu et Dieu a mis un bélier à sa place. Mais là, la fille de Jephté est morte. Dieu ne l'a pas sauvée. Et pourtant, il avait 2 mois pour le faire. Les 2 mois pendant lesquels cette fille s'est retirée dans la montagne. Pourquoi? Probablement parce que pour Isaac, c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de sacrifier son fils, comme pour éprouver sa foi. Alors que pour Jephté, c'est Jephté qui a proposé à Dieu de sacrifier sa fille. Dans cette histoire, Dieu ne prend pas lui-même l'initiative du sacrifice.
Et l'histoire de la fille de Jephté, c'est aussi l'histoire d'une promesse et d'un engagement. Jephté voulait tellement gagner une bataille qu'il a fait une promesse à la mesure de son envie, donner en sacrifice la première personne qui sortirait de chez lui.
Jephté savait très bien que les hôtes qu'il invite dans sa maison sont forcément des êtres qui lui sont chers. Donc, il savait que ce sacrifice aurait un prix, que ce sacrifice lui coûterait. Mais il voulait avant tout devenir un grand chef. Le prix de son sacrifice était à la mesure de son envie. Il voulut mettre toutes les chances de son côté. Alors, il y a une question que je me pose souvent. Mais finalement, la promesse de Jephté, elle est démesurée. Mais est-ce qu'elle est condamnable? Parce que nous aussi, on fait souvent des promesses. Et dans l'histoire, il y a plein de promesses qui nous impliquent et qui accompagnent des vœux. Est-ce que tu vois, Marie-Christine, à quoi est-ce que je peux faire allusion?
Déjà, dans la Bible, on peut penser à Anne, la mère de Samuel, qui, se croyant stérile, a demandé à Dieu de lui donner un fils, tout en lui promettant de le mettre à son service. Et c'est ainsi qu'elle a confié Samuel au prêtre Élie.
Oui, et moi aussi je pense au seigneur Ponce de Léras qui, au XIIe siècle, fut pris dans un tel orage qu'il promit à Dieu que s'il en sortirait vivant, il construirait une abbaye sur le lieu même de l'orage. Et c'est ainsi qu'est née l'abbaye de Sylvanès.
Nous pouvons aussi souvent voir sur les murs des églises des ex-voto, qui sont les témoins de l'exaucement de ferventes prières à un saint ou une sainte. On peut lire « Merci pour le retour de mon fils », « Merci pour la guérison ».
Et puis nous aussi, il nous arrive de prendre des engagements envers les autres. Quand un parent dit à son enfant, si tu réussis ton permis, je t'achèterai une voiture. Ou bien, si tu réussis le brevet des collèges, je t'achèterai un scooter. La promesse est alors un encouragement. Donc finalement, une promesse, c'est un engagement. Les promesses ne sont pas interdites. Mais Jephté est-il condamnable d'avoir fait une promesse? Et puis surtout, quel sens on peut donner à cette histoire?
Donc nous pouvons dire aussi que l'histoire de la fille de Jephté, c'est surtout l'histoire d'une relation, de la relation entre Dieu et Jephté.
Alors si nous revenons au livre des juges, nous allons pouvoir replacer cette histoire dans son contexte. Ce livre nous raconte comment les tribus d'Israël, après avoir traversé le désert, s'établissent sur une nouvelle terre. Ce livre a été écrit pour nous dire que c'est Dieu qui gouverne le monde. Oui, Dieu est puissant, omniprésent. C'est une relecture de l'histoire pour donner ce pouvoir à Dieu. Dieu nomme des juges pour gouverner, des chefs de guerre pour conquérir un territoire. Et d'ailleurs, Jephté est un juge. Les autres juges, c'est par exemple Samson, Gédéon. Donc Jephté est un juge, c'est un homme dont l'autorité vient de Dieu. Et le premier verset nous le dit, le premier verset de cette histoire nous dit « L'Esprit de Dieu s'empara de Jephté ». Donc dans la logique du livre des juges, c'est Dieu qui a donné la victoire à Jephté et c'est aussi Dieu qui a fait mourir sa fille. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que Jephté a dit de si terrible pour que sa fille en soit morte? On va essayer de reprendre le récit à son tout début. Marie-Christine, si je te demande d'essayer de te souvenir de la première phrase dite par Jephté à Dieu, qu'est-ce que tu te souviens de quoi?
Quelque chose, un marchandage qui disait si tu livres les Ammonites, si je gagne la bataille, alors je t'offrirai en sacrifice, etc. La première personne qui sortira de chez moi.
C'est ça. Et moi, la première fois que j'ai lu le texte, c'était pareil. Mais en fait, Jephté ne dit pas tout à fait ça. Il dit si tu me livres les Ammonites ou si tu livres les Ammonites en mon pouvoir. C'est-à-dire, il ne dit pas « si tu me fais gagner la bataille », il dit « si tu me fais gagner la bataille ». Pour bien comprendre la différence, c'est comme si un parent disait à son enfant « si tu me réussis ton brevet des collèges, je te donnerai un scooter ». Or, un enfant réussit son brevet des collèges pour lui-même et non pas pour le plaisir de ses parents. Ainsi, deux reproches peuvent être faits à Jephté. Le premier, c'est d'avoir voulu gagner la bataille pour lui-même, pour servir son orgueil, et il n'a pas voulu gagner la bataille pour la gloire de Dieu. Jephté finalement a oublié qu'il avait été choisi par Dieu et que l'Esprit de Dieu était sur lui, comme nous le dit le premier verset. Le deuxième reproche que l'on peut faire à Jephté, c'est d'avoir voulu faire pression sur Dieu. C'est comme s'il avait dit à Dieu, « Si tu me fais gagner, je te donnerai une énorme récompense à la mesure de ma joie. » Jephté, finalement, échange une victoire contre un sacrifice comme si c'était un moyen magique pour acheter la bienveillance de Dieu. Jephté marchande avec Dieu, il exerce comme un chantage. Il domine Dieu, il l'instrumentalise. Et l'horreur du sacrifice nous permet de réaliser l'énormité du comportement de Jephté. Sa fille est morte, car en fait, il n'a pas fait confiance à Dieu. Jephté aurait pu promettre un sacrifice, mais seulement en reconnaissance à Dieu, et non pas pour faire pression sur lui.
Yeah.
Et pour nous aujourd'hui, quelle actualité, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Est-il normal de confier nos projets à Dieu?
Oui, bien sûr, on confie tous nos projets à Dieu dans notre prière. Mais est-ce que nous lui demandons la réussite inconditionnelle de nos projets selon nos plans? Ou est-ce que nous lui demandons que ta volonté soit faite comme dans le Notre Père? C'est-à-dire, est-ce que nous lui demandons de nous guider en cas de réussite ou d'échec? Vous savez, j'ai toujours été impressionnée par ce jeune qui disait « Oh, moi je vais prier Dieu pour qu'il m'aide à réussir mon permis de conduire ». Je pense que Dieu n'est pas un magicien. Par contre, Dieu peut nous accompagner en cas de réussite ou d'échec du permis de conduire. Et une vieille dame de la paroisse un jour m'a dit « Finalement, toutes mes prières ont été exaucées, mais bien souvent, pas du tout de la manière dont je l'avais imaginé. » En fait, Dieu n'est pas une baguette magique, il n'est pas la baguette magique de nos projets. Faisons-lui confiance, car lui seul sait dont nous avons besoin.
Cette histoire de la fille de Jephté, c'est donc une histoire qui fait partie de l'Ancien Testament, c'est très très ancien. Mais avec le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus récent, un message de Jésus qui nous
parlerait? Oui, parce que depuis, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et en fait, grâce à son humanité, nous pouvons avoir pleinement confiance en Dieu à travers Jésus-Christ. Ce personnage de Jésus-Christ est finalement un compagnon de route et je vais me permettre de vous donner deux points de repère pour notre foi. La première, c'est que nous pouvons avoir confiance en Dieu par la présence de Jésus à nos côtés. Jésus, en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Donc nous avons l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Son Fils, finalement, c'est comme un compagnon de route à chaque instant de notre vie. Et je me dis souvent que nous avons beaucoup de chance d'avoir une religion dans laquelle Dieu s'est incarné en un homme. Cet homme est près de nous, cet homme nous accompagne et nous abandonnera jamais.
C'est un frère.
C'est un frère. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Le deuxième repère pour notre foi, c'est de dire que finalement, la confiance en Dieu n'empêche pas la souffrance. Car bien sûr, si nous prions, c'est pour avoir des projets de bonheur que nous confions à Dieu. Mais la vie met devant nous des difficultés. Et la présence de Dieu, finalement, n'est pas un parapluie qui nous préserve du mal, des accidents, des morts injustes, des maladies. Mais grâce à son Fils Jésus-Christ, nous avons la certitude que Dieu partage ces moments. Car Jésus-Christ a souffert sur la croix, comme nous, dans notre vie, il nous arrive de souffrir. Alors finalement, j'aurais envie de vous donner un message aux chers auditeurs, vous qui nous écoutez depuis le début. Dans les engagements que vous prenez, dans les projets que vous faites, sachez que Dieu est là. Il vous précède, il vous suit, et ce n'est pas la peine de lui promettre une récompense car il vous accompagne gratuitement. Avec des louanges, avec des actions de grâce, nous pourrons lui rendre témoignage pour toute la confiance que nous mettons en lui. Pour tout ce qu'il nous donne, nous pourrons lui rendre grâce. Car oui, l'Esprit de Dieu est là, sur nous tous, et la vie nous attend, avec ce compagnon qui est son Fils.
Merci beaucoup, Annick, pour ce témoignage. Au revoir, et je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir, à bientôt.